m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, il est 17h30, bienvenue dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie chaque jour en direct de 17h30 à 19h30. Au programme de cette émission, deux invités. Nous recevons tout d'abord Frédéric Magellan, journaliste sportif, ancien professeur d'histoire, contributeur dans de nombreuses revues, notamment Nos Amis de Causeur, et qui publie Des chemises noires au brassard arc-en-ciel, le sport à l'épreuve des idéologies, paru aux éditions FIP, un livre qui pose une question qui dérange un peu. Pourquoi le sport qui devrait nous rassembler, c'est devenu le terrain de jeu favori d'affrontements idéologiques les plus âpres de notre époque. Et c'est assez ancien, ce qui est ça, on découvre pas mal de choses assez amusantes. À 18h30, nous recevrons Laurent Dandrieux, donc critique de cinéma, essayiste, rédacteur en chef culture de Valeurs Actuelles. L'occasion pour nous et donc pour lui de revenir sur l'immense Clint Eastwood, parce qu'il vient de fêter ses 95 ans. Et que des rumeurs annoncent qu'il pourrait tirer sa référence définitive au cinéma, ce qui serait assez triste. Mais c'est ainsi. Nous vous annonçons également la parution demain du nouveau numéro de L'Incorrect, à la une, Michel Houellebecq, qui parle de son ami Maurice Dantec, parce qu'on va fêter le triste anniversaire des 10 ans de la mort de Maurice Dantec, et donc on fait un dossier spécial sur Dantec, et en 2001, Maurice Dantec a fait la une de Chronicard pour le premier numéro, en s'affichant avec plateforme de Houellebecq, avec écrit prix Goncourt. Il avait deviné ce qui allait se passer quelques années plus tard. Et bien aujourd'hui, nous refaisons la même, et cette fois-ci, avec Houellebecq, qui tient le théâtre des opérations numéro 2 de Maurice Dantec, et il nous raconte donc l'histoire de son ami Maurice Dantec, et surtout cette génération d'écrivains nés dans les années 90, à cette année de fin de siècle, quelques années avant la fin du siècle définitif, le 11 septembre 2001. L'occasion de parler de littérature et beaucoup d'autres choses. Bref, vous l'aurez chez vous, pour ceux qui sont abonnés dès aujourd'hui ou demain, et dans vos kiosques, demain, kiosques, relais, marchands de journaux, bref, c'est là où vous achetez tous vos canards. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez également participer à l'émission par courriel, poser vos questions à nos invités, par téléphone également, 01 46 51 00 85. Frédéric Magellan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je remets votre livre. Hop, ici, il est là. On le voit, voilà. Donc, le livre est « Des chemises noires au brassard arc-en-ciel, le sport à l'épreuve des idéologies ». Donc, comme je le disais, vous êtes journaliste, ancien professeur d'histoire, contributeur régulier chez Nos Amis de Causeur, et donc vous publiez ce livre aux éditions FIP, 256 pages, pour démontrer que l'offensive idéologique sur le sport, non seulement n'est pas nouvelle, mais les habits ont changé, et c'est peut-être plus offensif et plus embêtant, en tout cas avec des conséquences plus graves qu'il y a quelques temps. Donc des chemises noires, évidemment, Mussolini, on reviendra sur la fameuse Coupe du Monde de foot, mais on parlera également de Berlin 36, et puis des choses que je ne connaissais pas, qui sont vraiment passionnantes. Et puis ces nouvelles idéologies qui viennent pas, cette fois-ci, pas que par les États, aussi par le communautarisme, l'antiracisme, LGBT, l'islamisme, bref, beaucoup de choses qui prend comme terrain de jeu de favori. Le sport, mais pas que le foot, on parle souvent du foot, mais il n'y a pas que le foot, malheureusement. Il y a aussi le cyclisme, l'athlétisme. On a vu récemment, avec notamment les JO, avec cette boxeuse ou boxeur, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui, qui était quoi en premier, mais algérien ou algérienne. Bref, à chaque fois, ça crée la polémique, ça permet de débat. Et puis avec vous, on va prendre donc de la hauteur et puis revenir en regardant un peu dans le rétroviseur pour se projeter vers l'avenir qui s'annonce quand même assez sombre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on a une petite tradition ici. On passe aux invités à la question.
Ils ne perdront pas notre temps.
Ils peuvent me tuer,
je ne parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Frédéric Magellan, vous êtes plutôt Sévi 82 ou France 98?
Alors moi, je suis plutôt de la génération 98, puisque j'avais 10 ans en 98, donc j'ai pas vu en direct le match de 82. Mais d'après ce que j'ai compris des grands aînés, le match de 82 quand même... Le match, vraiment une tension énorme, un scénario, un retournement. Je pense, c'est aussi le moment où le football français est encore très naïf, très romantique, alors que le football allemand est très physique et très malin. Sur le banc de touche, il y avait un joueur français qui s'appelait René Girard, qui était le seul méchant de l'équipe. Malheureusement, Hidalgo ne l'a pas rentré. Je pense que si on avait fait rentrer René Girard dans ce match, ça aurait pu un peu inverser la tendance. Il y avait le philosophe René Girard qui avait proposé d'achever Clausewitz. Là, on aurait eu René Girard qui aurait achevé Rummenigge et ça aurait pas été plus mal.
Ça aurait été bien, un bon tacle dans les genoux. Le pire entraîneur de l'équipe de France de foot.
Bon, c'est pas compliqué, je pense que c'est Raymond Domenech, qui d'ailleurs en plus est resté très longtemps en poste, 6 années. Je pense que 2 ça aurait pu largement suffire. Mais alors, il a bénéficié de la génération justement 82 Platini qui ne voulait pas que les Zidane, Deschamps, Laurent Blanc arrivent aux commandes du football français. Il a bénéficié de ça et ça finit par le fiasco de Nice-Na. Je crois que Netflix a fait un petit documentaire récent.
Exactement, un documentaire très intéressant.
Et on se rend compte qu'on le savait déjà un peu, mais son rôle est assez accablant dans ce fiasco.
Le plus grand exploit sportif français.
Pour sortir du foot, et je m'en souviens un peu, j'étais jeune garçon aussi, c'était le France-Nouvelle-Zélande de 99, avec le renversement en seconde mi-temps. Je crois qu'on leur met 43 essais, la Nouvelle-Zélande n'a jamais pris autant d'essais dans un match de Coupe du Monde, et ça prive la génération Lomu de titre mondial, donc c'est quand même sacré exploit, puis c'est du rugby, ça swingue, quoi. Ça allait d'un coin à l'autre.
Ah oui, Domenici 2 fois, Bernard Salle à la fin, merveilleux. Le sportif français le plus détestable.
Ah bah en ce moment, je dirais que c'est Mbappé. En tout cas, il a le don de se mettre un peu tout le monde à dos. Il a fait le plein au PSG, surtout là au Real, et je crois qu'il très apprécié. Même Macron se défausse sur lui. Et Macron doit être content de voir quelqu'un moins apprécié que lui. Donc, il se décharge un peu.
Quelle est votre plus grande déprime devant une compétition?
C'est un peu privé. Enfin, c'est le Stade Rennais. Hein. Les finales perdues en Coupe de France par le Stade Rennais, qui est mon club de cœur. Notamment en 2013 ou 14, je ne sais même plus. 2014 contre Guingamp. Enfin, c'est les voisins, donc c'est un peu la honte.
Les petits voisins.
Et là, j'avais vu ce match, et dès la première minute, j'avais compris que ça tout tournerait mal.
Le sport olympique dont personne ne comprend les règles, et pourtant tout le monde prétend les connaître.
Alors, il y a le hurling. Je ne suis pas un spécialiste des petits sports, mais moi, ce que j'aime bien, c'est le curling. Mais j'aime bien les sports gaéliques. C'est-à-dire le
curling,
hurling,
c'est vraiment un sport.
C'est un sport.
On balaye sur la glace, là.
Si c'était vraiment un sport, je pense que les fans de ménage portugais seraient les meilleurs du monde.
Évidemment, je me désolidarise de ces propos.
J'en profite parce que j'ai un nom d'origine portugaise.
Portugophobe.
Lusophobe.
Le plus grand commentateur télé de sport.
Le plus mythique, c'était Thierry Roland, c'est certain, avec ses phrases sur les deux lits, les coréens qui s'appellent Lee. Ça fait déjà un bel appartement. Patrick Vieira qui se bat contre ses cousins. D'ailleurs, il va bientôt y avoir un France-Sénégal, ça va être la revanche un peu. Et puis, c'est des expressions comme « fauché comme un lapin en plein vol », c'est très imagé, c'est très beau. On a perdu un peu ça d'ailleurs, il y a encore Omar Da Fonseca aujourd'hui qui est un peu dans ce registre.
Ces envolées Amérique latine. Et le pire,
ouais, qui est évincé on ne voit plus sur France TV, je crois.
Et le pire commentateur.
Bernard Montel, je vous en souvenez, qui faisait de l'athlétisme, ça montait un peu dans les aigus, c'était un peu fatigant. Alors c'était un passionné, il s'y connaissait, il n'y a pas de doute, mais il était un peu épuisant.
Et enfin, la réplique ou la déclaration d'un commentateur qui restera toujours inégalé.
Il y a peut-être la traduction de Nelson Monfort. Roland Garros, ça devait être 95, ou
Michael Chang
qui invoque son ami Luigi. Non, en fait, c'était Jésus. Bon, Lost in Translation.
Ça, pour chers auditeurs, c'est Michael Chang qui perd en finale contre de mémoire Thomas Munster. Et Nelson Monfort traduit en direct les propos et Michael Chang remercie Jésus, et dans la seconde qui suit, Nelson Monfort dit il remercie Luigi. Voilà. C'était notre
son ami
bon,
Luigi.
Son ami Luigi. Ce grand Nelson Monfort qu'on a la joie de retrouver tous les jours sur CNews.
Toute l'œuvre de Thierry Roland
pourrait être dans les meilleurs. Une encyclopédie. Alors, le sport pris en otage, le sport à l'épreuve des idéologies. Commençons par les États, si vous le voulez bien. Parce que vous vous rappelez dès le début que politique et sport, c'est une histoire quand même très ancienne. Et vous datez même le début, vous dites le début de cette mainmise, c'est 34, la Coupe du Monde de foot en Italie.
Oui, c'est le début de cette collusion entre sport et politique. C'est les régimes totalitaires qui patauge dedans très rapidement. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que le régime, par exemple nazi, hésite entre ne pas tenir et ne pas assurer les JO de 36 qui avaient été attribués avant 33. Il y a le camp des pour et le camp des contre. Bon, Goebbels veut absolument les accueillir Et c'est lui qui a gain de cause. D'ailleurs, ça permet au régime de lisser un peu son image quelques temps. 34, la Coupe du Monde en Italie, c'est peut-être un peu moins connu, parce que 36 est très connu, mais 34, c'est une Coupe du Monde organisée chez Mussolini. Et là aussi, c'est très... Déjà, les matchs sont truqués pour l'essentiel. Mussolini convoque les arbitres la veille des matchs. Et il y a des faits de jeu à chaque fois un peu accablants. Donc, les régimes totalitaires, on va dire de droite, s'en donnent à cœur joie. Ça aurait pu se tenir aussi à Tokyo en 40. Ce Tokyo devait tenir les JO de 40, mais ils n'ont pas eu lieu à cause de la guerre qui démarre. Et puis, les régimes soviétiques de l'Est poursuivent. Là, il y a aussi la pratique du dopage. Il y a même des cas de sportifs transsexuels dans le sport de l'Est. Il y en a eu aussi en Allemagne, j'ai plus les noms en tête, mais l'Allemagne nazie avait déjà commencé à changer de sexe un ou deux sportifs. Ça se poursuit avec...
Pour gagner,
bien sûr. Enfin, officiellement. Bizarrement, les régimes totalitaires ne sont pas hostiles aux transsexuels. D'ailleurs, l'Iran, aujourd'hui, il y avait une dizaine d'années, ça avait fait un peu glousser. L'équipe féminine d'Iran s'est rendu compte qu'il y avait 5 ou 8 joueuses qui étaient en fait des joueurs. Le régime iranien est moins virulent à l'égard du transsexualisme que de l'homosexualité. En fait, il encourage plutôt à changer de sexe plutôt qu'à être pleinement homosexuel. Donc, voilà, les régimes totalitaires ne sont pas hostiles à un petit coup de triche. Alors la France a échappé à ça, peut-être parce qu'on n'a pas eu de dictature finalement. Les politiques étaient un peu loin du sport.
Ils sont un peu rattrapés depuis quand même.
On s'est rattrapé depuis. Ça
pas l'État, mais les politiques, et on en parlera.
C'est ça, Mitterrand.
Emmanuel Macron qui fait des câlins à chaque fois dans les vestiaires.
Macron est devenu un commentateur sportif. Là, il a commenté le transfert de Mbappé. Il a fait des petites...
C'est vrai.
Voilà.
Et puis quand il fait des discours, parfois il y a des petits problèmes de mémoire de date aussi, l'inverse des choses. Rémi Kerluc.
Oui, quand on pense instrumentalisation du sport par des États, on pense effectivement au régime autoritaire et totalitaire du XXe siècle. Qu'en est-il des démocraties? Est-ce qu'elles s'y sont mises un petit peu plus tard? Est-ce qu'elles ne l'ont pas fait ou moins ou d'autres manières?
En fait, il y a peu de pays qui ont été d'abord des démocraties sans être des dictatures. Bon, les pays par exemple du Sud, Europe du Sud... Espagne, Portugal, il y avait d'abord une tradition salazariste ou franquiste, donc c'est des pays où ça comptait quand même le football, les stades sont remplis. Il y avait une vraie culture football depuis très longtemps, plus vieille qu'en France en fait. Nous, ça a démarré dans des villes un peu provinciales, Agen pour le rugby, Béziers, Saint-Étienne. Ça passait un peu sous les radars en fait des grandes capitales. Avant que Canal Plus achète le PSG, le PSG n'est pas un club énorme.
Non, Lyon, c'est le Racing.
Il y a le Racing, dans les années 60, le Racing. Ouais. Avant que Aulas arrive à Lyon, bon, Lyon a gagné quelques Coupes de France, mais c'était pas. Lyon était un club dans la banlieue était la banlieue de Saint-Etienne jusqu'aux années 90-2000. Et puis même Marseille, avant Tapie, bon, ils ont gagné quelques titres de champion, mais c'est. Donc c'était des phénomènes plutôt de ville moyenne, et ça échappait. Pas mal aux politiques, voilà, aux politiques, ouais.
Alors, si je revenir un peu encore en arrière, vous avez parlé de 36, des JO, donc, organisés par le régime nazi. Alors, vous rappelez que Hitler avait un total mépris pour le sport professionnel. Et, bon, il y a ces Jeux Olympiques qui sont organisés. Évidemment, Goebbels était à la manœuvre. Mais quelle est la stratégie, l'objectif en 36 des nazis?
Alors, les nazis ont quand même le... projet d'atténuer un peu leur image, qui n'est pas forcément terrible en 1936. D'ailleurs, il y a deux Jeux Olympiques. Hein. Il y a les Jeux Olympiques d'hiver, juste avant, et puis 1936 Munich, qui sont ceux d'été. Pendant quelques semaines, on retire les affiches du type interdit aux Juifs, etc. Donc le régime essaye un petit peu de s'édulcorer pendant quelques semaines, parce qu'il y a du passage. Hein. Il y a des journalistes européens, américains, qui sont dans le coin. Donc la question, vous me disiez, c'était...
C'était ce qui a été la stratégie des nazis pour le...
Enfin, disons, je ne sais pas s'il y a une stratégie complète, c'était une opportunité, c'était...
Et c'était quelque chose qui était très réfléchi, très pensé, avec réfléchi. Une ambition...
Il y a le fameux film de Leni Riefenstahl, mais qui aussi, finalement, c'est un film à part entière, et ce n'est pas complètement un film de propagande, parce que, bon, par exemple, c'est un film sur le sport, ouais.
Mais t'es fait, enfin, au niveau plastique, c'est...
D'ailleurs, quand Canal Plus, dans les années 80, change la façon de filmer le jeu de sport, ils vont piocher un peu dans la manière de faire de Leni Riefenstahl. Mais finalement, l'hymne américain est plus souvent entendu à l'écran que l'hymne allemand, donc c'est pas complètement un film de propagande, quoi. Il y a une part d'opportunité dans le... Voilà, ça s'est présenté comme ça, donc ils en ont profité. Et puis 36, donc voilà.
Et alors, et que vous avez évoqué le du côté de l'Est, un peu l'URSS. Justement, l'URSS, c'est ce qui voyait le sport comme un outil idéal pour faire leur propagande, comme l'a fait Mussolini, comme l'ont fait les nazis, ou l'utilisaient de manière différente?
Au tout début, les soviétiques voulaient faire un peu leur jeu à part. Ils avaient inventé les Spartakiades. Complètement en marge des Jeux Olympiques. Et puis au bout d'un moment, Staline, a compris qu'il avait tout intérêt à réintégrer le giron des nations, à montrer ses athlètes. Et là, ça a été pas mal de dopage, de triche dans le sport de la RDA, de la Pologne, de la Bulgarie. Bulgarie, c'est là où il y avait notamment les athlètes changés de sexe, les changements de sexe. Puis il y avait tout un réseau de clubs qu'on appelait les clubs Dynamo, Dynamo Moscou, Dynamo Kiev, Tbilissi, enfin il y en avait un par capitale, et c'était les clubs des renseignements secrets, de la police secrète.
C'est-à-dire c'était les clubs de la
police secrète qui gérait ces clubs-là, c'était leur vitrine. Il y avait le Lokomotiv Moscou, c'était le club des cheminots, etc. Enfin,
Les noms n'ont pas changé d'ailleurs.
Alors, ils n'ont pas changé parce que c'est devenu les marques à part entière. Enfin,
donc, tout ce qui était Dynamo, c'était des clubs pilotés par le...
Par la Stasi ou par le NKVD, etc. Et qui, en général, allait chercher, piocher les meilleurs joueurs pour son équipe. Certains joueurs, c'était assez rare, mais s'ils sont opposés, il y avait un club qui était un peu le club rebelle, c'était le Spartak Moscou. Il y a eu comme ça une fratrie des joueurs qui ont fait quelques années de goulag parce qu'ils n'ont pas voulu partir au Dynamo Moscou.
Ils ont refusé le transfert.
On
n'achetait pas si on finissait au goulag si on n'y allait pas. Quoi.
Voilà, c'est une autre époque.
C'est ce qui est assez intéressant. Alors j'ai une question d'un auditeur qui nous demande s'il voit que, quoi, selon les archives, lors de la parade du début des Jeux de Berlin en 1936, les athlètes français ont fait le salut fasciste. Est-ce que vous avez une explication?
Oui, c'était le salut de Joinville, en fait, qui n'est pas exactement le même geste, mais qui ressemble quand même beaucoup. Et c'est vrai que alors on est quand même à peine 20 ans après Berlin, et les Français défilent avec ce salut à la tribune à Munich, à Berlin, pardon. Et ça a été d'ailleurs, le public l'a acclamé, puisqu'il l'a pris lui pour un salut fasciste. Bon, il y a un petit quiproquo. Je crois que ça avait d'ailleurs fait l'objet d'un débat à l'Assemblée, à ce moment-là, au Parlement, à la Chambre des députés, on disait à l'époque. Il y avait eu un vote sur les questions de subvention, est-ce qu'il fallait subventionner ces jeux, le déplacement des athlètes français. Alors la Chambre, à l'époque, Front Populaire, avait voté une subvention pour que les athlètes français aillent à Berlin, mais aussi pour les jeux parallèles de Barcelone, de 36, parce que certains régimes de gauche ont voulu faire des jeux parallèles, mais ça n'a pas existé. Ils n'ont jamais démarré, puisque la guerre d'Espagne démarre pile au même moment. Mais il y a une subvention qui a été votée pour les deux Olympiades. Et je crois que le seul député qui avait voté contre, c'était Mendès France, qui était tout jeune.
D'accord. Alors faisons un petit saut dans le temps, on reste toujours sur les États. On va arriver jusqu'aux années 2000. Et là, il y a un nouvel acteur, des nouveaux acteurs plutôt d'ailleurs, qui émergent, sont les pétromonarchies. Avec cette particularité quand même, c'est que ce soit dans le cyclisme, la Formule 1 et puis le foot, disons qu'ils n'ont pas une passion ni une pratique très courante dans ces pays, et pourtant ils investissent massivement. Alors quelle est l'origine et comment se déploie cette stratégie?
Ça démarre, oui, à peu près au début des années 2000, des pays comme le Qatar, qu'on connaissait très très peu, enfin dont on n'entendait pas beaucoup parler il y a 25 ans, se sont mis à investir massivement dans le sport. Il y a eu aussi l'accueil des Grands Prix de Formule 1, c'est un enjeu important. Bahreïn a eu le sien, l'Azerbaïdjan, qui est aussi un régime un peu dans ce style. C'est un véritable enjeu d'exposition pour des pays qui ne sont pas très connus, l'Azerbaïdjan et tout, un pays assez jeune, assez récent. C'est des pays où il peut y avoir un engouement pour certains sports au départ, peut-être le tennis, etc., mais c'est un décollage assez récent. Enfin, mais c'est des pays qui ont compris l'intérêt d'investir là-dedans parce que c'est du soft power, simplement.
Et justement, est-ce que cette stratégie a fonctionné? Parce que le Qatar avec Paris, ça fait faire une c'est quoi, c'est au début, milieu des années 2010, début des années 2010 peut-être.
Oui.
Il y a les Émirats Arabes Unis qui récemment ont beaucoup investi dans le foot pour développer leur championnat, pour acheter Newcastle en Angleterre, je crois. On commence à avoir en tout cas un peu de recul, disons, sur toutes ces stratégies. Est-ce que c'est un succès, un succès relatif, un échec? Est-ce qu'on peut juger
Déjà, c'est un peu une façon pour ces pays-là qui ne s'entendent pas toujours très bien, le Qatar et les Émirats, de faire la guerre par d'autres moyens pour détourner Clausewitz, comme on en parlait tout à l'heure. Le sport, c'est un peu une manière c'est un peu devenu une manière de faire du sport, de continuer la guerre, pardon, par d'autres moyens. Est-ce que ça a marché? En tout cas, le PSG, bon, quand le Qatar est arrivé au PSG en 2011, bon, ça n'a pas beaucoup plu au public français, à part les supporters parisiens. Aujourd'hui, on voit quand même que, alors, en dehors des scènes qu'on a vues samedi dernier, moi j'étais à Perpignan, même à Perpignan, qui est quand même une ville du sud, un peu attirée par l'OM, qui n'est pas très loin. Il y avait quand même une petite ferveur dans les rues, on entendait des coups de klaxon. Donc, l'air de rien, le Qatar est devenu un acteur dans la vie française à travers le PSG. Il n'était pas très bien vu à son arrivée il y a 15 ans, et maintenant il s'est quand même un peu installé. Je me souviens que les supporters Bastia avaient déployé une banderole, le Qatar finance le PSG et le terrorisme. Et samedi dernier, il y avait quand même, en dehors des scènes qu'on a commenté beaucoup, il y avait quand même une unanimité à l'égard de ce PSG qui, c'est vrai, a une belle équipe, a fait deux fois le titre d'affilée, et un football plutôt alléchant.
On disait également au début que la stratégie du Qatar, en effet, d'investir dans le Paris Saint-Germain et puis dans d'autres, parce qu'ils ont racheté, je crois aussi, je me demande s'ils n'ont pas racheté une course épique ou l'Arc de Triomphe. Qui s'appelle maintenant Qatar, Arc de Triomphe, ou quelque chose comme ça. C'était aussi, ils n'avaient pas envie de finir comme le Koweït, c'est-à-dire petit pays riche. Le voisin plus violent avec des armes attaque, et ils disent, bon, si on investit dans le sport et donc on s'allie de fait, en tout cas on crée une dépendance des états dans lesquels on investit, ce qui est le cas en France, parce que le foot vit malheureusement et dépend malheureusement aujourd'hui du Qatar, pas que pour le PSG, pour les droits, pour les diffusions, pour tout ça. C'était également dans cette optique là, c'est-à-dire de pas finir comme le Koweït.
Oui, pas finir comme Koweït, c'est quand même un peu comme Abramovich qui a investi à Chelsea à une époque, oligarque russe, c'est peut-être pour pas finir comme Brzezinski ou comme les opposants, les oligarques qui finissaient parfois en geôle. C'est effectivement une manière de sortir. Pardon ?
Oui, tomber dans l'escalier.
Tomber dans l'escalier, oui. C'est plus compliqué de tuer le président que tout le monde connaît d'un club de Londres ou de. Effectivement, si demain l'Iran, encore que l'Iran envoie quelques missiles sur les Émirats, donc. Enfin, ceci étant, est-ce que demain le Royaume-Uni, parce que Manchester City est un club émirati, est-ce qu'ils vont aller automatiquement faire la guerre en cas d'attaque de l'Iran sur les Émirats? C'est pas non plus automatique, donc faut bien voir, on verra.
Et alors, en effet, vous avez cité l'Azerbaïdjan. C'est vrai qu'on c'est pas un pays dont on parle souvent, en tout cas, mais ils sont présents dans quoi, l'Azerbaïdjan? Ils ont encore une équipe de cyclistes ou pas? Je sais même plus.
C'est le Kazakhstan qui avait une équipe. Les Émirats aussi.
Avec Vinokourov.
Ouais, il y avait Astana, c'est ça?
Ouais.
Je sais pas s'ils sont toujours dans le coup, mais.
Et l'Azerbaïdjan, ils investissent dans quoi et pourquoi?
Ils ont beaucoup investi. Bah, ils avaient racheté à un moment donné le RC Lens. Ça avait failli finir de manière un peu catastrophique. Parce que le Mamadov, le milliardaire azéri, n'était pas si milliardaire que ça. En tout cas, il n'a jamais mis l'argent qu'il avait promis. Mais à une époque, il y a 10 ans, ils avaient beaucoup investi sur le sponsoring de clubs comme l'Atlético Madrid aussi. Ils avaient aussi pas mal misé sur l'Eurovision. Alors, on n'est plus exactement dans le sport, mais il fallait à tout prix que l'Azerbaïdjan se montre à travers la Formule 1, l'Eurovision, les clubs de l'Ouest, Atlético Madrid, RC Lens qui étaient sponsorisés. Voilà, c'est un peu du sports washing, puisque c'est des pays qui n'ont pas une excellente image parfois.
Ouais. Alors, si on prend l'exemple du foot, où c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent investi, comment l'entrée de ces nouveaux acteurs change, ou est-ce que ces entrées changent le monde du foot, changent un système, changent une manière de penser les choses, ou une organisation, ou c'est juste on reste sur l'investissement de marque, du soft power, de la présence, et puis ça ne va pas plus loin que ça.
L'air de rien, à l'arrivée du Qatar donc au PSG et des Émirats à Manchester City, ça a quand même pas mal changé la hiérarchie du football européen. Ils ont quand même mené une politique inflationniste sur les transferts. Tout le monde a été obligé de rallonger, de mettre à la poche pour les suivre, ce qui a épuisé un peu des gros clubs historiques comme le Barça, comme les clubs, italiens qui ont plongé. Hein, la Juve, la Juve a fini piteusement sixième, je crois, cette année en Serie A. Alors que c'est un des gros clubs, Platini, Zidane, enfin bref. Ils sont entrés dans le jeu, ils ont sorti Kanelchek, donc tout le monde a un peu aussi bénéficié de ça sur les transferts. Les clubs français ont vendu Chevalier l'année dernière, ça a bien renfloué les caisses du LOSC, par exemple. Mais à long terme, finalement, c'est de gros clubs, surtout le PSG, qui a le plus. On voit qu'ils ont un peu gagné deux fois de suite, aussi parce que la concurrence sur le plan financier ne suit plus le Bayern. Alors, le Bayern, est-ce que le Bayern aurait les moyens d'acheter aujourd'hui Dembélé à 120 ou 150 millions ? C'est pas sûr, etc. quoi.
Rémi,
Oui, sur cette question de l'entrisme des États sur la question du sport, il y a un sujet qui est important à mon avis, c'est le rôle du CIO et de la FIFA, des grandes instances internationales, puisqu'en 36, il y a les Jeux Olympiques à Berlin, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, on voit que, par exemple, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les Russes ont été plus ou moins retirés du CIO, leurs athlètes ne peuvent pas concourir sous leur drapeau, etc. On voit donc que le CIO, notamment, s'est calqué un petit peu sur la géopolitique occidentale au fur et à mesure. Quand est arrivée cette bascule et comment on l'explique et comment c'était mise en œuvre ?
Oui, complètement. C'est vrai que le CIO, par exemple, dans les années de guerre froide, jouait l'équilibre entre Est et Ouest, ne voulait pas fâcher ni les uns ni les autres. Alors, l'Est boycottait de temps en temps l'Ouest, notamment aux Jeux de 84 à Los Angeles. Inversement pour les Jeux de Moscou en 80. Mais le CIO essayait de jouer un peu l'équilibre. La FIFA faisait autant. Et quand il y avait un sportif, par exemple un footballeur allemand de l'Est qui passait à l'Ouest, il avait automatiquement un an de suspension. Il devait se retirer des terrains un an. Ferenc Puskás, le grand joueur hongrois qui était parti, qui avait fui la Hongrie pour le Real Madrid, a dû aussi rester un an, on va dire, sur le banc. Donc, pour ne pas vexer tout le monde, et puis on voit qu'à chaque fois, il y avait toujours 2, 3, 4 équipes de l'Est qui se qualifiaient pour la Coupe du Monde, parfois avec un petit coup de main d'arbitre dans les qualifications. On se souvient de ce France-Bulgarie en 77, où il y a un pénalty un peu bizarre donné à la fin qui a fait bondir le fameux Thierry Roland. Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Ouais. Voilà. Bon, souvent, il y avait un petit coup de main donné aux équipes de l'Est pour qu'il y ait 3-4 équipes qui aillent au Mondial. Et puis, la bascule, ça se fait début des années 90. Là, il y a la fin de la guerre froide. Et effectivement, le CIO, la FIFA, épouse à peu près la géopolitique de l'Ouest. Et le premier pays qui en fait les frais, c'est la Yougoslavie, qui est éjectée de l'Euro 92. D'ailleurs, l'équipe qui la remplace gagne l'Euro à sa place, le Danemark, avec des joueurs, les Danois, qui sont repêchés 15 jours avant le début et qui ont fait la préparation dans la piscine, en claquette. Ouais. Et finalement, c'est eux qui gagnent. Et puis ainsi de suite, l'Irak de Saddam Hussein n'était pas très bien vu non plus. Il y avait le CIO et la FIFA ont à peu près épousé la géopolitique de l'Ouest. Ça s'est vu aussi avec la Russie. Alors effectivement, en 2022, après l'invasion de l'Ukraine, aussitôt elle a été éjectée, pas tant en fait par la FIFA ou le CIO que par les autres fédérations européennes par exemple qui veulent pas jouer contre elle. Ils disent on veut pas que la Russie quand il y a 50, sur 50 fédérations européennes, s'il y en a 40 qui ne veulent pas que la Russie soit sur les terrains, bon, automatiquement, elle est éjectée de fait. Ces instances ont plutôt épousé la ligne de l'Ouest.
Alors, il y a dans quelques jours, 10 jours, peut-être un peu moins, il y a la Coupe du Monde de foot qui démarre aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un objectif politique ? Est-ce qu'il y a un objectif d'image pour Donald Trump?
Je me demande s'il a pas été attribué pendant son premier mandat d'ailleurs.
Je crois également.
Ouais, ouais. Mais les États-Unis, faut quand même pas oublier que les États-Unis c'est un pays qui est historiquement relativement indifférent au soccer, même si ça monte un petit peu. Il avait accueilli il y a une trentaine d'années. À l'époque, les journalistes américains disaient « Bon, vous avez fait plaisir, les Européens, on a accueilli votre Coupe du Monde de foot. »
En 94.
Plus jamais on fera. Enfin, ça ne les intéresse pas trop, mais l'air de rien, c'est quand même monté. Hein. On fait des décennies. Messi a signé là-bas, etc. Trump, il a certainement compris plus que ses prédécesseurs l'importance du soccer hors des États-Unis. Il y a pas très longtemps, il s'est un petit peu coquiné avec Cristiano Ronaldo. et en novembre ou décembre. Et il a reçu un prix de la paix de la part de la FIFA. Enfin, il a reçu un peu l'équivalent du prix Nobel, mais version football. Enfin bref. Mais alors, faut pas oublier non plus qu'il est pas tout seul à accueillir cette Coupe du Monde, puisqu'il y aura le Mexique et le Canada qui l'accueillent aussi. Et leurs relations sont pas terribles.
Les voisins ont un peu peur du rouleau compresseur, en effet.
Voilà. En tout cas, il est certainement le premier président à avoir compris que
président américain.
Américain à avoir compris l'intérêt du football. Alors, on va dire que on va faire le comparatif avec Poutine, qui avait tiré la couverture un peu sur lui aussi lors de sa Coupe du Monde en Russie. Mais finalement, nos propres chefs d'État français depuis Mitterrand à peu près ont tous aussi voulu tirer un peu la. D'ailleurs, François Hollande espérait que l'Euro 2016, hein, il y a 10 ans. Allait colmater les brèches et fermer les penser les cicatrices des attentats, de la série d'attentats qui avait lieu.
Il remontait dans les sondages comme Chirac.
Les sondages pour repasser éventuellement en 2007. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché.
Ça a raté. Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous sommes donc avec Frédéric Magellan qui publie des chemises noires au brassard arc-en-ciel, le sport à l'épreuve des idéologies. Vous savez que Radio Courtoisie est une radio libre, donc elle dépend de vos dons. Écoutez ce petit message et on se retrouve tout de suite après pour continuer à parler idéologie et sport.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie chaque jour, en direct de 17h30 à 19h30 et nous sommes donc avec Frédéric Magellan, on parle babal, comme dit Pierre-Alexandre Bouclet, et puis d'autres sports, parce que si vous n'aimez pas le football, le handball, le rugby et le cyclisme, bah sachez qu'il y a beaucoup de pays et de beaucoup de lobbies islamistes, LGBT, puis d'autres, qui s'y intéressent beaucoup, et qui, l'air de rien, en loose-dé, parfois même pas du tout en loose-dé, de manière très frontale, entrent dedans pour influencer de leurs idées plus ou moins excitantes. Mais vous savez qu'également à 18h02, c'est la chronique de Rémi Carlu, il va nous parler du PSG, donc le Paris Saint-Germain, pour ceux qui ne savent pas, qui a gagné donc la deuxième coupe, quoi, la Ligue des Champions. Et puis surtout, bon, on a vu une armée de Kevin et Matteo déboulonnés dans les rues, pas forcément avec un maillot du PSG, souvent avec un drapeau algérien dans les bras, en criant « voilà,
mon frère ».
Tu es
en train de défricher ma chronique, là, cher Arthur.
Parce que je ne l'ai pas lu.
Je ne peux pas la faire, si.
Eh bien, faites-la. Voilà, allez-y.
Et oui, samedi dernier, la victoire du Paris Saint-Germain, donc en Ligue des Champions, a été émaillée de violences urbaines, qui sont devenues une véritable tradition à chaque événement d'importance dans la plupart des grandes villes françaises. Ce ne sont plus les hooligans des années 90 qui se donnaient rendez-vous sur un parking pour en découdre dans les règles de l'art, si je puis dire, mais des émeutiers, des casseurs professionnels qui sautent sur le premier prétexte venu pour descendre en ville et tout casser. À chaque fois, ils s'attaquent aux forces de l'ordre, brûlent des voitures, détruisent le mobilier urbain, vandalisent les boutiques qui s'étaient barricadées la veille en prévoyance de ce qui allait arriver. Nous avons affaire, ni plus ni moins, à des hordes de barbares, un peu à la manière des Red Vikings qui mettaient à feu et à sang la France du 9e siècle. Ils viennent, détruisent tout sur une bande d'un kilomètre, puis repartent. La différence toutefois, et elle n'est pas des moindres, c'est que les casseurs d'aujourd'hui sont censés être nos compatriotes.
Je vous vois venir, cher Rémi, vous allez donc nous dire que c'est encore la faute de Kevin et Matteo.
Matteo et Kevin, c'est-à-dire les Anglais, c'est-à-dire les jeunes, on peut utiliser toutes les périphrases du monde et les médias de grand chemin peuvent mobiliser des trésors d'ingéniosité pour nous persuader que tout cela n'a aucun rapport avec l'immigration. Tout le monde a compris que les populations d'origine étrangère non assimilée sont effectivement pour beaucoup dans ces exactions, dont la gratuité et la fureur disent bien qu'elles sont dirigées contre notre pays en tant que tel. Après que les supporters lensois, qui ne sont pas les mieux lotis sur le plan économique et social, aient fêté joyeusement leur triomphe en Coupe de France, pourquoi cela célèbre-t-il une victoire en cassant tout, si ce n'est pour dire leur haine à notre égard? Et face à eux, il nous faut hélas constater l'impuissance complète de l'État, incapable ni de prévenir ni d'endiguer des violences dont on savait tous qu'elles allaient survenir. Désarmés moralement, ils n'osent plus faire usage, autant qu'il le faudrait, du monopole de la violence physique contre ceux qui s'en prennent ouvertement à lui et qui dès lors ne peuvent pas se plaindre de légitimes représailles. Pire encore, cet État doit même s'excuser préventivement de la violence dont il sera forcé de faire usage, face à ceux qui le mettent en accusation avant même que les événements n'aient commencé. Tel est le constat, d'un côté une situation conflictuelle et chaotique, de l'autre un pouvoir absent. Cher Arthur,
Cela ne vous fait-il pas penser à quelque chose ?
Je vous avoue que plusieurs idées viennent en tête, mais je pense spontanément à l'état de nature décrit par Hobbes dans le Léviathan 10, 2, 3, dès 751.
Mais quelle sagacité !
C'est un métier.
Nous sommes effectivement en plein XVIIe siècle, au cœur des guerres de religion qui opposent le catholicisme à la religion prétendue réformée, comme on disait alors, et l'anglais Thomas Hobbes s'apprête à révolutionner la philosophie, nous faisant par là entrer dans la modernité politique. Sa grande idée est la suivante : dans l'état de nature, un état de la vie pré-politique en quelque sorte, les hommes se livrent une guerre de tous contre tous. Pourquoi cette guerre ? Parce que la nature humaine n'est pas très belle, parce que le droit et la morale n'existent pas encore à l'état de nature pour réguler les comportements, parce que les hommes enfin sont à peu près égaux et qu'ils sont dès lors mus par la peur que leurs voisins ne s'emparent des ressources ou n'attendent à leur sécurité. De là la fameuse formule « l'homme est un loup pour l'homme ». Et c'est ici qu'intervient le contrat social. Pour sortir rationnellement de cet état instable et terrifiant, les hommes acceptent d'abdiquer leur liberté naturelle et de se soumettre à un souverain absolu, le Léviathan donc, qui en contrepartie leur garantira la paix et la sécurité.
Très bien, mais c'est quel rapport avec les émeutes ?
Mais patience, Sir Arthur, j'y viens. Ces deux derniers siècles, tout le travail des conservateurs, depuis Edmund Burke jusqu'à Roger Scruton, en passant par les maîtres de la contre-révolution, fut de démontrer l'inanité de ces théories. L'état de nature n'existe pas, puisque l'homme est un animal naturellement politique, moral et religieux. Par sa naissance, il est immédiatement incorporé à une société, à une tradition, à une culture, à une morale qui le précède et lui succéderont. Le contrat social, si tant est qu'il existe, repose donc sur un « nous » précontractuel, sur un socle culturel commun qui fonde l'existence de la communauté politique et qui permet d'en réguler le fonctionnement. En clair, certaines personnes contractent plutôt que d'autres, en un certain lieu, en une certaine langue, au nom de certaines valeurs qu'ils partagent, en vue d'une certaine conception du bien qui leur est propre. Le problème, c'est que depuis lors, ce socle culturel commun, qui était donc la fondation du contrat social, a été complètement sapé. Sapé par l'école, qui n'a pas su le défendre et le transmettre aux jeunes générations. Sapé par la repentance mémorielle, qui a jeté l'anathème sur nos traditions et nos ancêtres. Sapé par le nihilisme libéral, qui a sabordé la morale commune. Sapé par le laïcisme, qui a expulsé la religion de l'espace public. Sapé par le multiculturalisme, qui a sacrifié notre homogénéité culturelle en formant partout des enclaves tribales. Et voilà pourquoi on se retrouve en 2026... à devoir gérer des violences urbaines chaque soir de grands matchs.
Sapé comme jamais, comme disait le poète Maître Gims. Vous voulez dire donc que Hobbes avait raison ?
Je dirais plutôt que la modernité, à force de se déployer, a produit les conditions de cette guerre du tous contre tous qu'elle avait au départ inventée de manière purement théorique pour nous promettre d'en sortir. De fantasmagorique, les prémices de Hobbes deviennent chaque jour de plus en plus réelles. Alors je ne dis pas bien sûr que nous risquons encore la mort tous les jours, mais disons que la modernité produit l'état social que supposait au départ sa théorie. À savoir des êtres humains déliés et déculturés, asociaux et amoureux, qui ne partagent plus grand-chose et se méfient les uns des autres. L'ironie, c'est que notre Léviathan à nous est au même moment été déshabillé par les bons sentiments progressistes, on a donc créé une situation éruptive en s'amputant des moyens pour y répondre. L'excellent Pierre Valentin le montre bien dans son dernier essai, la génération Z vit dans un monde néo-hobbésien, parce que tout lui semble hostile, imprévisible, menaçant. La sécurité, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est devenue sa principale préoccupation. Je crois qu'il faut étendre ce constat à l'ensemble de la société. D'un côté donc, nous n'avons pas transmis de manière vivante l'histoire, la culture, les mœurs, la morale, la religion, bref, ce nous précontractuel dont je vous parlais. De l'autre côté, nous avons apporté d'autres matrices culturelles via un immigrationnisme dément. Le résultat, il ne nous reste plus aujourd'hui aucune instance partagée par tous pour réguler les comportements, sinon un État pour l'heure impuissant. Trois chemins se présentent désormais à nous, et ce sera à mon avis l'enjeu principal de la prochaine présidentielle. Soit nous réaffirmons notre socle culturel et agissons en conséquence, soit nous assisterons à l'émergence d'un super Léviathan, armé des nouvelles technologies de surveillance pour sécuriser l'enfer, soit nous aurons, pour de vrai cette fois, la guerre du tous contre tous, c'est ce qu'on appelle la guerre civile.
Merci Rémi Carlu. Alors pour rester dans le sport, puisqu'au départ je rappelle qu'il s'agissait d'un jeu de babal, nous recevons donc Frédéric Magellan pour son livre « Le sport à l'épreuve des idéologies ». Donc à la suite de cette chronique, et évidemment sans vouloir faire aucun lien avec ce qu'a dit Rémi Carlu et voulant refuser tout amalgame, au-delà des États, il y a des idéologies qui prospèrent, dont une qui est l'islamisme, et qui défraie souvent la chronique, sur les terrains amateurs, sur les terrains professionnels. Depuis quand datez-vous l'entrisme islamique, je veux dire, pour élargir, dans le football ?
Alors, dans le football, si on prend les choses sur le temps long, ça remonte assez loin, puisque Hassan El-Banna, le fondateur des Frères musulmans, dès les années 20-30, avait incité les islamistes, les membres de la confrérie, à intégrer les clubs de sport, tout ce qui était sportif. Et ça s'est poursuivi, par exemple, dans les années 90 en Algérie, les années du FIS, la plupart, la quasi-totalité des terroristes du FIS, hein, la guerre civile assez terrible, étaient très souvent encartés dans les clubs de sport, et notamment de sport de combat. Donc, alors aujourd'hui, dans les sports de combat, il y en a beaucoup qui sont pas mal contrôlés, verrouillés par des mouvances islamistes.
Lesquels, par exemple
Lesquels les frères musulmans. Hein.
Non, quel sport de combat?
Les sports de combat, alors
la boxe, le MMA, le karaté.
Le MMA qui est hyper connu.
Il faut distinguer. Il y a le sport amateur. Je parle plutôt du sport amateur pour l'instant, mais le sport professionnel, il peut y avoir des figures, effectivement, comme les Tchétchènes de MMA qui sont un peu connus pour leur prosélytisme. Bon, le MMA, c'est un sport, c'est un peu remplacé, j'ai l'impression, le catch. Il faut des personnalités un peu typées. Quoi. Il y a quelques Français qui commencent à s'illustrer, qui sont plutôt une image légèrement à droite. Et puis en face d'eux, il y a des islamistes, il y a un nationaliste irlandais, McGregor. Donc il faut un peu des personnages comme ça.
Oui, bah, Benoît Saint-Denis pour la France, McGregor pour l'Irlande, et le Tchétchène copain de Benzema pour... Oui, c'est celui-là.
Alors le sport amateur, lui, là c'est peut-être la partie immergée, on va dire, enfin la partie non visible. Les clubs de sport, c'est quand même dans certains villages, hein, c'est à peu près tout ce qui reste. Il reste un club de foot parfois plus qu'une boulangerie dans certains endroits. Et effectivement, il y a un petit maillage qui s'installe islamiste. Il y a eu un club de 7 à 7 dans l'Hérault qui a été supprimé, enfin qui a été interdit parce que son blason c'était le croissant et une étoile. Hein. Donc il y a vraiment il y a ça, il y a le problème du voile aussi qui s'installe petit à petit dans le sport féminin, notamment dans le football féminin. Officiellement, c'est interdit dans les règles de la FFF. Il y a d'autres fédérations comme le basket.
FFF, c'est la Fédération française de football.
La fédération de basket est beaucoup plus ouverte, mais peu importe finalement que les ligues soient ouvertes ou pas, de fait, on retrouve des voiles islamiques un peu partout. Les préfets remontent ça. De temps en temps, ils veulent un peu sévir, puis de temps en temps, ils se disent bon, c'est quand même pas mal d'avoir des clubs de sport qui existent malgré ça, donc il y a un entre-deux. Et le ministère des Sports lui-même n'est pas complètement épargné par des gens qui ont une vision, une conception un petit peu anglo-saxonne des choses, donc.
Très multiculturelle.
Très multiculturelle, très influencée par une certaine gauche américaine, voire anglaise. Et donc, on a vu une ministre, il n'y a pas si longtemps que ça, qui était montée au front contre son collègue Retailleau, qui ne voulait pas que la droite s'empare de ces sujets-là. Dans l'ambiance de cacophonie gouvernementale actuelle, il y a des choses qui passent, et finalement, c'est des brèches. Et le sport amateur, pendant ce temps-là, eh bien, il est gentiment, corseté par l'islamisme, sachant que le sujet de l'école, hein, l'école, le voile, ça, c'est un sujet, ça fait 40 ans qu'en France c'est sur la table avec l'affaire de Creil. On a fini par faire la loi 2004. Il y a eu, dès que les abayas sont apparus, Attal est intervenu. Donc l'école, c'est quelque chose qui est sous les radars, mais pas le sport. Ça échappe au radar, puisque je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on pourrait le re-questionner. Mais s'il n'y a pas eu la une du Nouvel Obs de 89 avec Finkielkraut et Régis Debray pour dire attention, le sport est envahi par le voile islamique. Quoi.
Rémi Carlu.
Oui, quelles sont les conséquences de cette entrée islamique, par exemple, dans l'équipe de France, de manière très concrète? Je crois que vous racontez notamment le moment où le halal a fait irruption au sein de l'équipe de France. Comment ça a été vécu par les différents joueurs?
C'était quand même un motif de division au sein de l'équipe de France, l'affaire du buffet halal. Je crois que c'est Claude Makélélé qui était un joueur d'origine congolaise mais catholique qui avait dévoré les brochettes halal. Enfin, ça a fait une histoire pas possible. Ça aussi, c'est Raymond Domenech hein, qui était donc le pire entraîneur de l'équipe de France, comme on a pu le dire tout à l'heure, qui avait laissé un peu rentrer tout ça. Déjà, quand il était entraîneur de l'équipe Espoir, un petit peu avant de prendre l'équipe A, il y a eu des phénomènes assez intéressants, c'est-à-dire qu'il y a une Coupe du Monde des U20 ou 21 en 97, là tous les joueurs français de l'époque, les jeunes joueurs débarquent en Malaisie, et là ils sont impressionnés de voir un pays où il y a des mosquées qui ont partout, un pays moderne mais très, très musulman quand même, et eux qui, pour certains c'était des joueurs antillais qui n'avaient pas du tout grandi dans l'islam, hein, au contraire, parfois plutôt catholiques, qui ont vu un peu l'islam des caves, un peu discret des années 90, et qui ont vu en contraste la Malaisie très moderne et en même temps très musulmane. Et ils ont été assez fascinés. Il y a eu une série de conversions de joueurs antillais, notamment Anelka, Didier Domi, des joueurs qui après, dans les vestiaires, fin 90, quand c'est pas encore un phénomène de masse, l'islam, installaient dans les douches des espèces de salles de prière, avec ce qui provoque un peu l'hilarité de leurs collègues. Et finalement, quelques années plus tard, c'est ces joueurs-là qui sont devenus un peu majoritaires dans les vestiaires. D'ailleurs, Fabien Barthez, on se souvient bien de Fabien Barthez, qui avait dit le vestiaire de l'équipe de France, c'est devenu, on a l'impression de rentrer dans une mosquée. Il avait dit ça vers 2005. Donc ça allait très vite.
Et on sait aujourd'hui comment ces questions sont gérées par Didier Deschamps, par le staff de l'équipe de France actuelle, sur la question du halal, par exemple.
Le halal, le buffet halal, apparemment, il est disparu, mais ce que font les attendants, c'est qu'ils demandent aux joueurs, maintenant, un peu au porte-à-porte, avant les matchs, avant les rassemblements, que ce que tu préfères, halal ou pas halal. Donc c'est fait de façon un peu plus discrète, mais à la carte.
C'est fait à la carte. Mais alors, est-ce qu'il y a alors, il y a le foot professionnel, donc qui est visible, parce que des journalistes arrivent parfois à enquêter, parce que des joueurs parlent, parce que d'autres assistent à des événements. Le foot, en effet, amateur, ça passe en effet sous les radars, même s'il y a des revendications pendant les périodes de Ramadan, avec des pauses fraîcheurs. On trouve tous les stratagèmes pour essayer d'imposer la culture islamique. Mais quelles sont, selon vous, les prochaines revendications qui vont arriver dans le sport professionnel? Et est-ce que l'influence des pays, des pétromonarchies, qui a priori sont quand même plus musulmanes que bouddhistes, influence sur l'entrisme islamique également?
Déjà, ils sont... Oui, l'islam, c'est maintenant, alors vous parlez du sport amateur, mais finalement, dans les matchs de football professionnel, de Ligue Champion, on a vu des coupures de jeunes, pas seulement des pauses fraîcheurs, mais des coupures de jeunes en plein match. En Angleterre, en Allemagne, c'est devenu institutionnalisé, donc ça fait partie des règles du jeu, comme le hors-jeu. Maintenant, la coupure de jeunes, ça fait partie intégrante du jeu. Alors, on pourrait imaginer que les bouddhistes, demain, aient une revendication parallèle, ou des joueurs juifs qui demandent que les matchs démarrent après la fin du Shabbat, par exemple, pourquoi pas. Finalement, Allah est devenu le 12e joueur, le 12e imam du football actuel. Comment est-ce qu'il y aura d'autres revendications? Je ne sais pas, mais il y aura la question du voile qui va revenir. Au dernier mondial en 2023, il y avait de football féminin. Il y avait une joueuse voilée dans l'équipe marocaine. Il y avait une seule. Là, c'est là que ça devient compliqué. C'est-à-dire que la Fédération française de football interdit en principe le voile, mais la FIFA, qui est au-dessus d'elle, elle l'autorise. Donc, en Coupe du Monde, on a vu une joueuse marocaine, puisqu'on en verra d'autres au prochain mondial. Pourquoi pas des Françaises, d'ailleurs. Mais les médias français, d'ailleurs, l'équipe SoFoot, étaient émerveillés de voir une joueuse marocaine porter le voile. On a l'impression que c'était un progrès immense pour la liberté, alors que bon, on pourrait avoir le point de vue exactement inverse.
Alors, convergence des luttes oblige, il y a une autre idéologie qui essaye de se tailler une petite place également. C'est l'idéologie LGBT, plus toutes les consonnes et les voyelles que vous pouvez ajouter. Alors, si on reste dans le foot, mais après on va élargir au football, ça a commencé notamment dans cette volonté de corriger un peu les tribunes et certains chants jugés homophobes.
Ah oui, alors il y a cette histoire des chants, effectivement. Il y avait une ministre aussi des sports, il y a une dizaine d'années, un peu moins, ancienne nageuse d'origine roumaine, son nom m'échappe.
Oudéa Castera.
Non, ça s'est passé.
Marseillaise.
Qui a commencé
C'est la première à faire ça.
Qui a commencé à mettre le holà sur les noms d'oiseaux et les chants homophobes. Bon, ça faisait partie aussi un peu du folklore des tribunes. Et ça, on est revenu un peu en arrière. Ça s'est pas mal réduit.
Disons qu'ils ont essayé d'arrêter à chaque fois qu'il y avait des chants homophobes, donc arbitre, vous imaginez la suite, ou Marseille, on, quand c'est un Parisien ou l'inverse. Bon, l'arbitre devait arrêter le match. Bon, le problème, c'est que ça s'arrêtait toutes les deux minutes, ça devenait un peu compliqué. Mais est-ce qu'il y a ce qu'on se dit, vous avez fait le portrait, la radiographie de l'entrisme islamique dans le sein du football, une volonté d'institution donc ministre de la Culture, puis peut-être même de la Fédération Française de Foot, d'essayer d'apporter un peu de, comment dire, d'obéir aux injonctions des lobbies LGBT avec des brassards LGBT, avec l'interdiction de ça, on se dit, il y a quand même, au bout d'un moment, ça n'a pas très bien marché, l'idéologie islamique et l'idéologie LGBT dans un même sport, même dans un même club.
Oui, on s'est rendu compte que ça marchait mal ensemble parce que il y a encore un an, y avait pendant une journée de championnat à la fin de saison de football où les joueurs étaient censés porter des maillots floqués arc-en-ciel. Et il y avait toujours une quinzaine de joueurs qui refusaient, presque toujours, 14 sur 15 étaient des joueurs musulmans, il y avait aussi un joueur serbe, Matic, qui avait refusé de jouer. Et donc, oui, effectivement, ça ne marche pas très bien. Alors, cette année, ils ont refait un dispositif, mais beaucoup plus léger, donc il n'y avait plus du tout les symboles LGBT.
Donc, en fait, ils s'adaptent à l'idéologie islamique.
Ils ont finalement renoncé, ils ont essayé de mener une poussée pro-LGBT, finalement face à, puisqu'on ne parlait finalement que des 15 joueurs qui refusaient de jouer, on est revenu assez largement en arrière.
Ce qui est fascinant, pardon, c'est que l'entrisme islamiste, ça se passe surtout dans le vestiaire entre guillemets, tandis que ce que je trouve intéressant avec la question LGBT mais aussi la question de l'antiracisme, moi je me souviens qu'en Angleterre pendant une année tous les joueurs mettaient le genou à terre pour George Floyd, enfin, ils ont fait ça pendant une saison complète ou quasiment. C'est que là c'est plutôt le sport est utilisé comme un instrument de rééducation du spectateur d'une certaine manière pour normaliser certaines idéologies.
Oui, c'est vrai, ça marche pas tant que ça finalement. Alors George Floyd, il y avait aussi une question, enfin là c'est pareil, les sportifs, les footballeurs européens sont un peu fascinés par l'Amérique, ils sont footballeurs mais en général ils adorent la NBA. Ils vivent un peu à l'heure américaine. Et j'imagine aussi, enfin, je pense qu'ils avaient un peu le fantasme d'attirer les projecteurs sur eux, parce que finalement, le public afro-américain ne doit pas forcément connaître Arsenal ou Manchester City. C'est un peu loin pour eux. Et il y avait un peu une volonté comme ça de se montrer de manière un peu internationale. Et ça a aussi créé des petites frictions en équipe de France, puisque à l'Euro 2021, pardon, une partie des joueurs voulait poser le genou à terre, ça a été fait pour deux ou trois matchs amicaux avant le début de l'Euro, mais ça n'a pas été fait pendant l'Euro. On s'aperçoit quand même que depuis les années 2010, il y a tout le temps une petite affaire avant l'Euro ou la Coupe du Monde, petite affaire sur fond un peu ethnico-racial, si c'est pas Knysna, les joueurs, les biffés halal, c'est Benzema qui est retoqué de l'équipe de France et qui crie au scandale raciste. Ou sinon c'est l'affaire du genou à terre, ou pendant les dernières élections législatives, Mbappé qui a donné un peu ses consignes de vote en pleine élection et en plein euro. Donc depuis 15 ans, il y a toujours une affaire ethnico-raciale, on va dire.
Mais justement, sur l'idéologie antiraciste, restons dessus, vous écrivez que les instances officielles ont fait de cette idéologie l'idéologie officielle. Alors que c'est passé comment? Parce que les instances officielles, je suppose que vous parlez des fédérations, pourquoi même pas des ministères, comment c'est devenu une idéologie officielle?
Oui, les fédérations, même les ligues, enfin, l'UEFA fait des spots avec des badges de respect, et on voit des spots publicitaires entre, à la mi-temps par exemple, avec des joueurs, alors, il y en a un qui cul-jatte, des messages antiracistes, et puis, allez, 5 secondes aussi, une sportive en hijab. Donc c'est un peu cette espèce de melting pot, de mélange de causes qui peuvent être
parfois justes. C'est l'inclusion générale.
C'est l'inclusion, voilà, l'inclusion. On n'a rien contre les cul-jattes, évidemment, mais...
C'est compliqué pour jouer au foot. Marc Obregon.
Et justement, par rapport aux cul-jattes, j'aimerais avoir votre regard sur le handisport qui est vraiment valorisé par les CIO d'hiver depuis des années. On sait que les CIO remplissent les stades artificiellement parce que finalement, personne ne veut y aller, parce que ce sont des spectacles qui sont considérés comme quand même relativement... un peu dur à voir, je pense par exemple au basket à l'aveugle, qui est quand même assez grotesque à regarder. Quel est votre regard, vous, sur le handisport et sur la façon dont il est mis en avant par l'État et par les CIO?
C'est vrai que c'est... Honnêtement, j'ai pas regardé une minute des Jeux paralympiques il y a deux ans.
C'est comme le foot féminin, quoi. On nous dit qu'il faut regarder, mais personne ne regarde.
Allez, le foot féminin...
Je ne compare pas les femmes aux personnes.
Attention, Arthur.
Bon, j'ai quelques attaches à Saint-Malo et mon équipe de l'US Saint-Malo vient de monter en Ligue 1 féminine. Donc, on va être quand même respectueux. Mais les Jeux paralympiques, je n'ai pas du tout regardé les derniers. Alors, c'est vrai que... on imagine mal revenir en arrière, cesser de les organiser par manque d'intérêt, puisque, bon, finalement, ils existent. Donc, voilà. Alors, je trouve que ça pourrait être un peu malin de les mettre avant les vrais Jeux Olympiques, je dirais, parce que, les Jeux Olympiques. Parce que finalement, ça retombe, une fois que les Jeux sont terminés, ça retombe complètement et on suit quand même beaucoup moins.
Oui, ça c'est vrai.
Il y avait ce sportif sud-africain qui courait avec une jambe en moins.
Oscar Pistorius.
Oscar Pistorius, et finalement, il a eu des histoires...
Alors, il y a un sous-chapitre qui est très intéressant, très amusant. Peut-être que vous pouvez nous le raconter à nos auditeurs. C'est quand la cause LGBT réhabilite une athlète collabo.
Ah oui, Violette Maurice, sportive française des années 20-30, qui a une personnalité assez trempée, qui portait plus des pantalons qu'autre chose, qui avait un peu la main baladeuse avec ses collègues féminines dans les vestiaires. Et qui s'est fait sortir d'à peu près toutes les fédérations sportives. Elle jouait au foot, elle faisait un peu de tout, hein, la course automobile. Elle s'est fait sortir un peu à cause de son style, on va dire, garçon manqué. Elle avait gros contre la France, et quand l'occupant arrive en 40, c'est un peu le miracle pour elle, parce que les Allemands lui paraissent plus sympathiques, surtout avec les Allemands à croix gammée. Et elle s'engage dans la milice, elle a participé à quelques interrogatoires musclés, elle se fait descendre à la fin de la guerre aussi. Mais alors, il y a d'ailleurs une sorte de petite querelle d'historien, puisque il y a une petite tentative dans le milieu LGBT de la réhabiliter, d'en faire presque une icône trans. Bon, pour une milicienne, c'est un peu risqué quand même.
C'est un peu casual en effet. Alors, vous avez parlé de Kylian Mbappé qui avait l'air de rien donné des consignes de vote aux dernières législatives, mais là, en tant que capitaine en plus de l'équipe de France de football, donc il va partir aux Amériques pour essayer de gagner cette Coupe du Monde, ramener la Coupe à la maison, comme disait l'autre, il a reparlé de politique en expliquant, en déclarant qu'il craignait l'arrivée potentielle du Rassemblement National au pouvoir. Un sportif qui use son statut, des micros, des tribunes pour parler de politique, est-ce que finalement c'est quelque chose d'assez ancien ?
Il y a eu une petite lignée de joueurs d'athlètes un peu gauchistes dans les années 70-80, des joueurs comme Paul Breitner, footballeur maoïste, Dominique Rocheteau, qui avait un peu menacé de ne pas faire le mondial en Argentine en 78, finalement il l'a fait. Ça a pu exister. Des choses plus récentes, Fabien Coll, le gardien de la JOCR, qui a eu une petite carrière à l'UDF dans Lyon. Enfin, c'était très discret, mais à la limite, oui, un sportif comme un boulanger peut s'inscrire sur une liste électorale, faire une campagne, pourquoi pas. Avec Mbappé, alors déjà Mbappé ne joue plus en France depuis pratiquement 2 ans. Est-ce qu'il est encore. Est-ce que, bon, il se prononce sur les élections, pourquoi pas. Mais c'est avec son statut de capitaine de l'équipe de France. Là, il y a une nuance, je pense, entre s'exprimer dans Vanity Fair, à la limite, pourquoi pas, et le faire avec l'estrade de la Fédération de football, le maillot de l'équipe de France. Il y a quand même une petite part de prise d'otage. Et sachant que, en plus, maintenant, le RN est quand même entre 30 et 40%. Donc, on peut supposer que sur les téléspectateurs de l'équipe de France, il y en a 30 ou 40% qui votent RN, on imagine. Donc, c'est pas forcément très inspiré.
Oui.
Ça risque de détourner une partie du public.
Vous faites une différence entre le sportif engagé, comme le courageux Kylian Mbappé, et les artistes engagés, comme par exemple ceux qui pétitionnent à Cannes, et puis que ceux qui ont toujours profité d'un micro pour.
Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est en train de. En fait, Kylian Mbappé était en train de monter dans le wagon des artistes engagés. Quoi. C'est un peu le Patrick Bruel. Alors, j'espère qu'il n'y a pas les mêmes casseroles.
Ouais.
Mais et en vrai, alors je pense que le public à 30 ou 40 ans pouvait être un petit peu quand Patrick Bruel avait dit quelque chose, ça avait un petit effet dans l'opinion. Je crois que c'est un peu fini.
Ils sont plus prescripteurs.
C'est de moins en moins. Quelle part Mbappé a eu dans le demi-échec des législatives pour le RN en 2024? Bon.
La reconstitution du Front Républicain. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question, parce que malheureusement, l'heure tourne. Est-ce qu'il y a des sports qui résistent à l'entrisme des idéologies? Et pour quelles raisons ces sports résisteraient?
Il y en a qui sont moins sous les feux des projecteurs, donc c'est moins un enjeu.
Par exemple, si on prend le rugby, on a le sentiment que le rugby, LGBT, c'est pas trop le truc. L'antiracisme, ça fonctionne pas. L'entrisme islamique, a priori, on le voit pas. On imagine mal des joueuses féminines de rugby jouer avec un voile.
Des opposants vous expliqueraient que Thomas Porte vous explique que c'est un milieu qui est complètement vieille France, raciste, avec la cérémonie. Vous vous souvenez de la Coupe du Monde de rugby il y a 2-3 ans Baguette, béret, Jean Dujardin, enfin la totale. On pourrait vous dire que c'est aussi le rugby, lui aussi, est politique finalement. C'est devenu le sport des petits blancs finalement.
Ouais, mais ce qui est plus le cas sociologiquement, le rugby. C'est vrai qu'il y avait des différences géographiques. Donc le rugby était quand même circonscrit à des zones géographiques pendant très longtemps, globalement le sud-ouest. Et puis il y avait le Stade de France qui était là avec leur drapeau, avec leur maillot rose et éclair, mais c'était une anomalie. Mais là, c'est plus le cas aujourd'hui. Toutes les villes, quelle que soit leur zone géographique, peuvent monter une équipe de rugby. Et puis sociologiquement, on regarde, ça vient de. C'est plus le sport de petits bourgeois ou de petits blancs.
Oui, c'est en train de remonter gentiment au nord de la Loire. Oui, alors est-ce que le rugby, c'est peut-être l'ambiance du midi, enfin, il y a une sorte de convivialité. Finalement, les joueurs même les joueurs de couleur sont entrés dans ces équipes, ça n'a pas fait d'histoire particulièrement.
En fait, peut-être que ça s'assimile plus facilement et qu'il y a encore quelque chose qui... en tout cas, une instance au-dessus, ou soit dans les directions de club directement, qui appose et qui impose des comportements et une culture.
De toute façon, il y a une sorte de... à Toulouse, qui est une ville où les deux sports coexistent, c'est pas tout à fait les mêmes sociologies qui vont au stade.
Ouais.
Le rugby, c'est légèrement plus intello, on va dire. C'est un public légèrement plus intello. Puis on y va en général avec ses... Enfin, il y a une part d'initiation en rugby. On y va avec son grand-père ou son...
Il y a une transmission.
Moins l'idiot de son grand-père en général. Le football, on y va plutôt entre copains à 16 ans avec des cadettes. Donc, il y a un peu de ça. Non, c'est vrai que le rugby n'est pas trop...
Encore épargné aujourd'hui. Quoi.
Épargné. Je pense qu'il est assez mal vu par une petite part du petit milieu gauchiste. C'est un peu le sport des beaufs. Quoi.
D'accord. Frédéric Magellan, merci beaucoup. Je rappelle donc votre livre, Des chemises noires au brassard arc-en-ciel. Le sport à l'épreuve des idéologies, c'est paru chez FIP Éditions. Chers amis, juste le temps d'une petite pause et on se retrouve avec notre ami Laurent Dandrieux pour parler de Clint Eastwood qui vient de fêter ses 95 ans.